Bon, alors là, je me lance dans un exposé que j'ai jamais fait, que un peu. Bon, vous me direz, je sais pas, c'est un peu compliqué. Alors, je l'ai appelé peut-être de façon un peu pompeuse des modèles de formation, mais en fait, c'est un peu des réflexions. Alors, je vous explique d'où ça vient cette chose-là. Je vous en ai déjà parlé. En juin, on a fait donc les journées de l'INRP qui rassemblaient. Donc, elles étaient sur des équipes de maths. Et donc, ces journées de l'INRP rassemblaient tous les gens qui travaillent pour l'INRP, qui ont des moyens INRP et qui produisent des ressources. Et donc, ça se fait tous les ans. Et donc, c'est une façon de rendre compte un peu du travail qui est fait à l'institution. Et on fait des sous-thèmes de travail. Et donc, moi, j'animais un sous-thème qui s'appelait création de ressources, diffusion de ressources et formation. Et donc, les différents groupes ont exposé ce qu'ils faisaient dans l'idée de formation. Donc, on était plus sur des pratiques de formation continue. Et à la fin du travail et en synthèse de ce travail, il est apparu quand même assez fortement que tous ces gens qui produisaient des ressources, tous ces groupes qui travaillaient pour produire ces ressources, avaient bien sûr un but commun qui était produire des ressources et donc participer à la formation des gens, mais que les moyens d'y arriver, les modalités étaient assez différentes. Et donc j'ai un petit peu essayé de classer tout ça. Et en faisant ce travail de classement, bah, ça a donné le questionnaire qu'on a élaboré avec Yana, là, qui vous a été distribué, où on a essayé de dégager des modèles de formation, mais je répète, hein, c'est un modèle au sens vraiment tout petit du terme. Voilà. Donc c'était un peu ce que je voulais vous soumettre, et donc c'est les réflexions autour de ça, et puis on regardera aussi les réponses au questionnaire autour de ça. Voilà. Donc je vous dis l'historique et je vous dis que hein, c'est pas un travail de recherche, c'est pas un travail qui est peut-être abouti, mais enfin c'est un premier travail. Voilà. Donc ok. Alors je voulais quand même dire que sur les modalités de formation, il y avait beaucoup de modalités de formation dans le sens d'organisation de la formation. Bon, alors vous connaissez tout ça, mais c'était juste pour les rappeler. Donc la formation par les stages, c'est des formations qu'on appelle action, c'est-à-dire on se forme dans l'action. Les formations alternées, l'alternance, hein, ce qu'on vit par exemple avec nos stagiaires en formation initiale. Le tutorat, ce qu'ils vivent aussi dans leurs établissements. Nous, hein, ils ont un tuteur, un maître de stage dans l'établissement où ils sont. Le compagnonnage peut être une forme de formation aussi, hein. On a des grands débats en France là-dessus. Les échanges de pratiques, les groupes qui réfléchissent autour des échanges de pratiques, vous savez, ou de réflexion sur la pratique, d'analyse de pratique. Le coaching peut être aussi une modalité de formation, l'apprentissage un peu informel comme ça, et la formation à distance. Et c'est vrai que les groupes qui travaillaient là dans le cadre de l'INRP sont tous autour de la question de la formation à distance, puisqu'on est tous sur des sites, des choses comme ça. Voilà, donc ça c'était juste pour vous rappeler qu'il y avait différentes formes, et que du coup ça avait des impacts sur ce qu'on pouvait faire en formation, parce que on voit bien comment on voit bien par exemple la différence de ce qui peut se passer entre une formation alternée comme les stagiaires que nous avons nous en IUFM, et je pense qu'en Suisse c'est pareil, hein, ils ont une classe et ils viennent de temps en temps, ou au Sénégal, enfin voilà. Donc par exemple, certainement que là, dans les modalités, il y a quelque part un suivi de la pratique, une prise en compte de la pratique et un suivi. Enfin, il faudrait que... quand on a une formation en stage, il y a une prise en compte de la pratique, c'est sûr, mais il n'y a pas de suivi. Il y a souvent 2 jours de stage ou 3 jours de stage, sauf des stages qui seraient justement des stages filés, etc. Donc ça, c'est des difficultés à prendre en compte. On a beaucoup parlé du compagnonnage, du tutorat et tout. Quel type de formation ça correspond, etc. La formation à distance, les problèmes de formation à distance. Est-ce qu'on peut simplement se former à distance? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de moments où les gens se retrouvent, etc. Voilà, donc je voulais commencer par là. Une autre réflexion, c'est sur formation initiale, formation continue. Alors, il me semble que là, il y a quand même une grande différence qui serait, si vous êtes d'accord, je ne sais pas, qu'en formation initiale, il me semble que tous les aspects du métier sont davantage pris en compte. C'est-à-dire qu'on va essayer de prendre en compte à la fois, alors si on prend par exemple pour les professeurs de mathématiques, l'aspect enseignement des mathématiques, l'aspect représentation sur le métier, l'aspect valeur de l'école, etc., peut-être l'aspect élève ou l'aspect, par exemple, chez nous, ils ont des cours sur les adolescents ou la maternelle, par exemple, des choses comme ça. Donc, il me semble qu'il y a une volonté de prendre en compte différents aspects et différents, alors c'est pas forcément que des aspects du métier, mais c'est aussi différents types de connaissances, alors que en formation continue, on se centre sur un ou quelques aspects, mais on prend beaucoup moins en compte la globalité de ces aspects. Bon, je vous dis, je sais pas, vous êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais voilà, c'était pour au moins entamer des discussions là-dessus et essayer de faire du tri. Alors, j'ai repris aussi, donc là, je rentre par plein de bouts et puis on verra après si ça. J'ai repris aussi la classification de Schulman sur les savoirs professionnels des enseignants. Juste pour qu'on regarde un peu ça. Et justement, ça fait bien apparaître ces différents aspects. Alors, vous voyez, Schulman, il définit, même si c'est des travaux qui sont relativement vieux, 87, hein, mais bon, ça... C'est quand même intéressant de se pencher là-dessus. Donc, il définit, il fait une classification des savoirs professionnels des enseignants. Alors, les savoirs autour du contenu, hein, les mathématiques, la physique et tout ça. Alors, ce qu'il appelle les pedagogical content knowledge, alors, ce qui soulève beaucoup de débats sur la traduction de ça. Alors, c'est des connaissances sur le contenu, mais à visée d'enseignement. Hein. Alors, est-ce qu'on peut traduire par c'est des connaissances didactiques? Bon, ouais, c'est opposé effectivement à des connaissances plus générales de pédagogie. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est des connaissances didactiques ou est-ce que c'est des connaissances pour la pratique? Alors, ce qu'il y met dedans, quand on lit un peu ce qu'il met dedans, bah, par exemple, il dit que c'est des connaissances autour des erreurs des élèves, c'est des choses comme ça. Hein. Il y a sur comment les élèves résolvent des problèmes, sur voilà des choses. Bon. Alors, les curriculum knowledge, donc les connaissances autour des curriculums, des savoirs enseignés. Donc, les connaissances plus pédagogiques, animer des groupes, qu'est-ce que ça peut être? Oui, animer des groupes, comment on se positionne dans la salle, des choses sur les interactions, des choses comme ça. Les connaissances autour des apprenants. Donc ça pourrait être comment les élèves apprennent ou bien qu'est-ce qu'il y a de caractéristique chez un élève de maternelle ou des choses comme ça. Les connaissances autour des contextes d'éducation, tout ce qui est, je dirais un peu des connaissances institutionnelles, comment fonctionne le système, etc. Et puis des connaissances sur les buts et les valeurs de l'éducation. Donc ça, ce serait un peu la question qu'on posait tout à l'heure là. Pourquoi on enseigne? Quels sont les buts? Est-ce qu'il faut amener tout le monde ou bien au contraire, voilà, des choses comme ça. Donc ça nous donne quand même. Enfin, moi je trouve c'est intéressant d'avoir ça en tête parce que ça nous donne une trame pour se dire mais sur quoi je travaille, sur quoi j'interviens, hein. Voilà, alors Je pense qu'ici, on a beaucoup parlé de ça. J'espère qu'on a parlé de ça. On a assez peu parlé des programmes. Bon, est-ce qu'on a parlé de ces questions-là ? Ça se voit quand je fais ça avec ma souris ? Oui. Voilà. Et puis, on a parlé peut-être des apprenants. Voilà. Donc, je voulais mettre ça. Alors, maintenant, je vais revenir sur... Avec tous ces outils, puis en essayant de voir un peu comment les choses s'articulent, je vais revenir sur le questionnaire, reprendre les thèmes qu'on a mis dans le questionnaire, donc dans la partie vous en tant que formateur, en essayant de voir comment on peut illustrer ça, et puis en gros en essayant de voir qu'est-ce qui est mis en avant ou au contraire qu'est-ce qui est oublié. Alors, donc on vous demandait, vous en tant que formateur, où est-ce que vous avez l'impression de travailler le plus, à quel niveau vous avez l'impression de travailler le plus. Alors la première c'était travail centré sur un thème disciplinaire. Alors c'est vrai que par exemple en formation continue on voit beaucoup de choses comme ça, c'est-à-dire on va proposer 3 jours de formation sur, bah tiens, en ce moment en France l'algorithmique c'est une grande nouveauté en France des programmes, donc on va proposer ça, donc ça serait je l'ai pas mis mais j'ai mis autre chose, j'ai mis la démonstration, les fonctions, etc. Et on va travailler, alors non, finalement l'algorithmique, je sais pas s'il faut le mettre là, ouais, enfin on peut le mettre là aussi, en tout cas ce qui va être travaillé là c'est le savoir qui est en jeu. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, quelles vont être les difficultés, etc. Qu'est-ce qu'on peut... voilà. Et ça, c'est vrai que c'est un travail tout à fait important à faire, parce que quand on veut enseigner, il faut aussi avoir fait ce travail-là. Hein. Ça peut être aussi autour des difficultés des élèves relatives à ce savoir, des erreurs des élèves. Alors, par exemple, je pense que... Je sais pas s'il y a eu des stages qui s'appelaient vraiment, par exemple, dessin figure, mais tout ce qui tourne autour des problématiques de dessin et de figure en géométrie, par exemple, ou le passage de l'arithmétique à l'algèbre, comment ces choses-là se... Voilà. Et donc, on fait l'hypothèse que à travers ce thème disciplinaire, on va apporter aux formés des outils, des connaissances, des savoir-faire, etc., et qui vont pouvoir les réinvestir au moment où ils vont enseigner cette partie du programme. Alors, c'est vrai que ça donne une vision assez large sur les mathématiques enseignées, ça éclaire les mathématiques enseignées. En revanche, c'est un travail qui doit être fait pour chaque thème, hein, donc... c'est difficile de le faire une fois, puis après de l'adapter. Et puis donc, toujours dans mes idées de transfert, il reste fortement à la charge du professeur de mobiliser ces connaissances-là et de les intégrer dans sa pratique de classe ou dans ses préparations. Et ça, c'est une vraie difficulté. Par exemple, on le voit bien en formation initiale, quand on travaille des choses comme ça. Bon, les stagiaires, souvent, ils sont très contents. Ils ont appris des erreurs classiques d'élèves ou des choses comme ça. Mais après, comment dans la pratique ils se servent de ça, qu'est-ce qu'ils en font, à part de les connaître et de savoir qu'effectivement si je trace des perpendiculaires et que je mets une droite oblique, je risque d'avoir beaucoup d'élèves qui vont faire cette erreur là mais comment ils s'en servent? Et ça, si c'est pas pris en compte dans la formation, ça risque de rester des connaissances comme ça, un peu déclaratives. Alors ensuite, Il y avait un deuxième grand paragraphe qui était... ce que je veux dire aussi, pardon, j'ai oublié un truc, c'est que ça, par exemple, il y a des gens qui travaillent, par exemple l'équipe Dématé, ils font ça. Hein. Si vous connaissez, par exemple, à l'INRP, l'équipe qui s'appelle Dématé, ils travaillent autour de l'énumération en maternelle, c'est ça. Hein. Eux, ils travaillent, par exemple, dans cette optique-là. Donc, par exemple, ils proposent pas d'activité pour la classe. Alors ensuite, donc je disais, un deuxième grand paragraphe qu'on vous avait dit, c'était proposition élaboration d'activités et de situations clés en main pour la pratique ordinaire de la classe. On avait mis deux sous-titres. On avait mis en privilégiant un travail centré sur une analyse a priori des activités et des situations proposées et en privilégiant un travail centré sur la mise en œuvre et la gestion de ses activités. Alors là, vous me voyez bien arriver parce que c'est justement ce que je racontais ce matin là, c'est-à-dire que est-ce que dans les propositions élaboration d'activités qu'on fait et qu'on travaille en formation, est-ce qu'on va jusqu'à mise en œuvre et gestion dans la classe? Et si on n'y va pas, est-ce que voilà. Donc c'était pour ça qu'on avait mis ça. Et les questions qui se posent autour de ce genre de formation, c'est par exemple si le professeur n'a pas participé à l'élaboration, c'est-à-dire si on lui donne quelque chose de clé en main, est-ce que vraiment un prof peut utiliser quelque chose clé en main comme ça, ou est-ce qu'il fera forcément des adaptations? Et puis comment est-ce qu'il peut l'utiliser clé en main? C'est-à-dire qu'il ne peut, à mon avis, l'utiliser clé en main que si il y a un partage des implicites sur pourquoi on a fait ça comme ça. Et si ce partage des implicites il est pas fait quelque part, il est pas dit, il est pas. Alors si c'est comme c'est des implicites, c'est pas dit, mais il faudrait que ça devienne explicite. Si ça n'est pas fait, le professeur utilisateur risque de ne rien comprendre. Et du coup, de dénaturer complètement l'activité. Hein? Voilà. Donc là, vraiment, je pense qu'il faut qu'il y ait une explicitation des choix possibles. Alors, vous reconnaissez, c'est ce que nous, on a essayé de faire dans notre groupe Sésame. Je dis pas qu'on y a réussi, mais voilà. Et puis, peut-être aussi que ça peut dépendre de la classe aussi. Hein? Et puis, alors après, il y a la question de ma position, moi, c'est qu'il faut lever ces implicites et les mettre en avant. Ou alors, il y en a vraiment pas d'implicites. C'est-à-dire, par exemple, c'est la position de l'équipe, si vous connaissez le manuel en ligne, la Sésamat. Eux, leur position, c'est, nous, on met tout et les profs, ils prennent comme ça, mais il n'y a pas d'implicite derrière. Bon. Ça, c'est encore une autre position. Oh, si, ils disent ça. Oh, bah, ils disent clairement ça. Non, ils disent pas qu'il n'y a pas d'implicite, mais ils disent qu'ils veulent pas l'élever parce qu'ils sont pas partagés, ils sont... Voilà. Ils se posent pas vraiment cette question-là. Bien sûr qu'il y en a, bien sûr. Mais ils se posent pas la question. Et donc, la question qui se pose aussi ici, c'est comment est-ce qu'on attrape la globalité des tâches du professeur? C'est-à-dire, c'est toujours la même idée aussi, c'est comment on passe de une activité, ou deux, ou trois, ou quatre, à... au travail du professeur. Est-ce qu'on le prend en compte là-dedans ou est-ce qu'on le prend pas en compte? Et ça, moi, je trouve que c'est une sacrée question de formation. Alors, ensuite, on arrive sur des propositions ou des élaborations d'activités clés en main, plus ou moins, hein, clés en main, on l'a bien mis entre guillemets. Alors, excusez-moi, je reviens encore une fois en arrière. Par exemple aussi, si vous connaissez les travaux de l'équipe Ampère autour d'Yves Matron, eux, ils sont bien sur cette idée de partage des implicites, donc ils veulent lever tous ces implicites et tout ça, mais ils se rendent compte que pour faire ça, il y a une quantité d'informations théoriques à donner qui pourrait être un obstacle au fait que les gens prennent leurs activités. Parce que il y a tellement de choses à savoir, à comprendre, à apprendre, etc., que pour eux, une activité, c'est à peu près 20 ou 30 pages de texte à lire, avec tout ce qu'il y a. Bon, voilà. Donc peut-être qu'il faut trouver aussi un juste milieu. Alors, maintenant, sur la question des pratiques inhabituelles de classe... alors ça, c'est un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure sur le problème ouvert, mais il y a d'autres choses que le problème ouvert. Il y a par exemple les narrations de recherche, c'est aussi une activité inhabituelle pour la classe. Alors c'est inhabituel dans plusieurs sens. Ça peut être inhabituel parce que ce ne sont pas des activités institutionnelles, par exemple les narrations de recherche, c'est pas une activité institutionnelle, ou ça peut être inhabituel dans le sens de inhabituel pour la pratique. Alors ce sont souvent des problèmes différents, c'est ce qu'on a vu. Il y a très souvent une affirmation qu'il faut favoriser l'activité des élèves, etc. Il y a des indications... Hein? Non? T'es pas d'accord? Si, si.
Je disais des élèves favorisés.
Activité des élèves favorisés. Non, non, mais la grammaire, c'est bon. Hein. Il y a des indications sur la gestion de classe, parce que justement, ces activités-là, elles nécessitent une gestion de classe particulière. Hein. Et bon, alors, je reviens pas sur le débat qu'on a eu tout à l'heure, mais la question qui se pose, c'est est-ce que, à travers ça, on arrive à toucher les pratiques quotidiennes. Donc, je reviens pas, puisqu'on l'a déjà dit. Donc, ça, par exemple, c'est le groupe Exprime, par exemple, hein, qui était plutôt dans cette configuration-là. Il y avait aussi le groupe qui s'appelle Demos, était aussi un peu tout ce qui a été fait autour du problème ouvert et là-dedans. Alors oui, je disais que donc il y a les problèmes de transfert. Il peut avoir un écart important. Ouais, mais c'est tout ce qu'on a dit pour les élèves. Non, c'est pas tout à fait tout ce qu'on a dit. Alors il peut avoir un écart important et que cet écart ne va pas être comblé. Alors il y avait aussi une autre question moi que je me posais, c'était quel est le contrat aussi qui va se passer avec les élèves, c'est-à-dire de temps en temps on fait des choses et puis de temps en temps on fait autre chose. Comment ça va se gérer dans la vie de la classe ça? Et puis, activité ponctuelle, donc toujours pareil, et qu'est-ce qu'on prend de la globalité du métier? Alors, ensuite, il y avait un autre grand paragraphe qui était la conception collaborative d'activités et de situations pour la pratique ordinaire de la classe. Là, on avait distingué plusieurs sous-thèmes. Donc, en privilégiant des éléments qui favorisent la mutualisation de cette activité. Alors là, l'idée qu'on avait, c'était que, il y avait des formes communes qui étaient données et qui faisaient que ça allait permettre aux gens de pouvoir élaborer leurs activités. Alors ça, c'est par exemple ce qu'on trouve dans le SFODEM. Hein. Et puis, je pense aussi que si vous regardez en France, dans les documents sur le socle commun, il y a des fiches, des sortes de fiches de PrEP type qui sont proposées. Je crois que c'est en physique ou en techno, je sais plus. Et voilà. Donc là, on est plus sur la forme. De l'autre côté, on peut privilégier aussi les contenus disciplinaires ou on peut privilégier, donc là, on conçoit ensemble de façon collaborative et puis on va privilégier le retour réflexif, c'est-à-dire on élabore, on fait et ensuite on analyse ce qui s'est passé. Et de l'analyse de ce qui s'est passé, on va revenir sur l'activité et tout ça. Donc est-ce que ce retour réflexif, il est ou pas privilégié? Alors, quels impacts ça peut avoir, ça? Alors, il est clair que la distance formateur-formé est réduite, hein, puisqu'on est dans une situation collaborative. Certainement qu'on prend en compte davantage la globalité des tâches du professeur, puisqu'on conçoit, on expérimente, etc. C'est certainement une aide pour la préparation de séances, c'est sûr. Hein, à plusieurs, on progresse davantage que tout seul. Mais toujours pareil, quels implicites il y a derrière tout ça? Et est-ce qu'on lève ces implicites? Est-ce qu'on les partage? Est-ce qu'on les partage pas? Voilà. Alors là, je vais peut-être changer parce que j'avais fait. Alors maintenant, on va vous donner. Ben, tu vas le faire puisque tu l'as fait. On va vous donner un retour sur vos questionnaires avec tout ça.
Voilà, donc en lien avec cet exposé, on voulait revenir un petit peu sur ce qu'on a pu voir dans vos questionnaires, parce que quand vous avez vu, il y a vraiment un lien fort de tout ça dans les questionnaires. Donc on a pris en compte tous ces modèles pour concevoir notre questionnaire. On se demandait, donc vous venez avec vos pratiques de formateur, donc je vais peut-être d'abord montrer les résultats concernant vos pratiques de formateur. Donc on voulait, par l'intermédiaire de ce questionnaire, voir grosso modo où vous vous avez le sentiment vous situer par rapport à ces modèles. Éventuellement, on a laissé aussi la place pour voir émerger d'autres modalités, d'autres modèles de formation. Donc voilà, un dépouillement très très rapide et très basique donne ce résultat. Donc finalement, on a pris en compte tout simplement ce que vous avez mis en rang 1, rang 2, rang 3, et puis on a mis les rangs suivants comme ça pour ne pas les évacuer complètement. Et donc il y a des tendances qui se dessinent. On s'était dit aussi que le public que vous constituez est très très hétérogène de plusieurs points de vue. Déjà par rapport à vos origines, on a plusieurs pays, donc on se disait on va avoir une variété très importante de modalités. Et puis finalement on retrouve des tendances qui se dessinent. Donc voilà, il y a déjà le premier. C'est pas hiérarchisé. C'est celui-là qui est le plus fort. Mais les modalités qui ressortent le plus fortement, ce sont la modalité 1, donc travail centré sur un thème disciplinaire. Donc il semblerait que dans les formations que vous faites, souvent ce sont des formations sur un thème disciplinaire. Et puis donc souvent il s'agit de proposer ou d'élaborer avec les stagiaires des activités qui sont prêtes à être mises en œuvre dans les classes, et où il y a une dimension forte sur l'analyse a priori. Donc ça, je pense qu'on l'a vu aussi dans cette formation, cet axe privilégié. Il y a aussi donc une tendance qui est proposer ou élaborer des activités donc prêtes pour une pratique inhabituelle. Donc il y a aussi une formation, par exemple, et donc ça on l'a vu par exemple dans la présentation des Suisses, donc axée une formation sur des problèmes ouverts ou alors des problèmes de recherche, des narrations de recherche. Et puis donc également en ce qui concerne la conception collaborative d'activités, où il y a ce retour réflexif après la mise en œuvre qui est privilégié. Voilà donc les cinq tendances qu'on a pu repérer. Je ne sais pas, Sylvie, tu veux
quelque chose. Bah, je voulais juste dire que bon, c'est assez. Enfin, on s'attendait pas vraiment à ces résultats. Bon, ça prouve aussi que peut-être les tendances qu'on avait mis en avant étaient un peu pertinentes, puisque on arrive un peu à les retrouver. Bon, ceci dit, vous avez peut-être voulu rentrer aussi dans les propositions, tout ça. Mais enfin, ça paraît relativement partagé, quoi. Il n'y a pas quelque chose qui l'emporte de façon très très majoritaire. Voilà. Donc on est tous sur des choses un peu différentes, et donc la question revient de toute façon, comment le stagiaire il rassemble les morceaux, quoi. C'est un peu ça.
Tout à fait. Et puis ce qui est remarquable aussi, c'est que toutes les modalités qui étaient dans le questionnaire ont été prises en compte. C'est-à-dire il y a au moins une réponse par rapport à cette modalité. Donc on voit que on n'a pas inventé des choses qui ne donnent pas de sens à ce sujet-là. Donc j'en profite aussi pour regarder un petit peu les pratiques d'enseignants. Donc on s'était dit tout le monde, tous les stagiaires ne seront pas forcément des formateurs, et puis il y a aussi ceux qui portent les deux casquettes, c'est-à-dire qui sont à la fois des formateurs et des enseignants. Donc on a voulu voir aussi quelles sont vos pratiques d'enseignants, et puis on n'est pas allé jusqu'à croiser est-ce que ces modalités, enfin des pratiques d'enseignants se reflètent dans vos modalités de formation. Peut-être ce serait intéressant de le faire, donc on va peut-être essayer de l'analyser un petit peu plus en détail. Et donc là également, il y a des tendances qui se dessinent. Donc il y a des pratiques, enfin des aspects dans les pratiques qui sont partagés très fortement, notamment donc le premier. Donc dans vos pratiques d'enseignant, vous cherchez des activités qui donnent du sens aux élèves. Donc ça c'est pas très très étonnant. En même temps, donc beaucoup parmi vous essayez de mettre en œuvre les situations de résolution de problèmes ou de démarches d'investigation. Il y a une tendance aussi à prendre en compte en amont de l'enseignement ou alors en cours de l'enseignement des difficultés des élèves pour adapter votre enseignement à ces difficultés-là. Puis aussi un effort de faire travailler les élèves en groupe, donc au moins par deux, donc la prise en compte d'aspects sociaux dans les apprentissages, et puis enfin dans la préparation, ce qui ressort des questionnaires, que dans votre préparation vous utilisez souvent des activités tirées des manuels et d'internet, mais pas clé en main, c'est-à-dire que vous avez insisté à ce que ces activités-là sont souvent modifiées, donc pour les adapter à votre contexte. Voilà ce qui ressort de vos questions par un dépouillement pas très poussé, mais quand même ça donne une idée sur l'homogénéité quelque part sur quelques aspects de vos pratiques.
En revanche, ce que on s'y attendait un peu, hein, mais c'est on avait mis des questions sur le travail collaboratif dans les établissements, et donc on voit bien que on n'a pas beaucoup, mais c'est pas vraiment une surprise.
Il apparaît, mais c'est pas
la priorité.
La priorité.
Je dois avoir deux diapos pour conclure.
Vas-y.
Il est où là? Non, mais attends, parce que ça c'était pareil. Voilà, pardon. J'en viens là. Alors, oh, puis peut-être même qu'on l'a déjà dit, donc on va aller vite. Les conclusions, moi je les ferai porter sur la question du transfert. Bon, on l'a dit, redit, ok. Sur la question des connaissances ou des conceptions ou des choses là, peut-être. Des conceptions. Quelles conceptions on a de l'apprentissage, de faire des mathématiques, de faire de la physique, d'enseigner les mathématiques, enseigner la physique. Alors ça, est-ce qu'on le prend en compte dans les formations? Et puis, au-delà des conceptions, des connaissances, des savoir-faire, des savoirs que doit posséder un enseignant, la prise en compte de la globalité du travail de la classe ou pas, ça me paraît être un critère fort. Ah pardon, je suis pas en... Oui d'accord, j'ai compris pourquoi j'y arrive pas. Voilà. On voit aussi qu'il y a quand même trois entrées qui sortent de tout ça. Une entrée par le savoir, très très forte, analyse du savoir, etc. Une entrée par les élèves, l'activité des élèves, les erreurs des élèves, etc. Et une entrée par les pratiques. Et c'est intéressant, à mon avis, en tant que formateur, de savoir par où on rentre, à quel moment et tout, hein, sachant qu'on peut rentrer à différents moments, mais par quelle entrée on rentre dans cette question de la formation. Ça, je pense que c'est important. Les questions implicites, explicites, on en a aussi beaucoup parlé, sur les hypothèses d'apprentissage, sur les hypothèses de transfert et sur le contexte des classes aussi, peut-être qu'il y a des choses à mettre en avant. Et voilà, j'ai fini. C'est bon, t'as vu, 2 minutes. Donc, on a 5 minutes de discussion ou pas? Ou on passe à autre... Non? Un peu? Bon, c'est vraiment un truc, ça n'a pas une valeur extraordinaire, c'était juste un point que je voulais faire. Là.